de ta prière. Seigneur, tu dis en Hébreux 4 que ta parole est vivante et agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants, qu'elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, qu'elle est juge des sentiments et des pensées du cœur, qu'il n'est pas de création qui échappe à ton regard. Tout est mis à nu et offert à tes yeux, toi qui es celui à qui nous devons rendre compte. Moi, j'aurai des comptes à te rendre, entre autres pour ce matin, ma manière d'exposer ta parole aux uns et aux autres maintenant. Et Seigneur, dans ta grâce, fais que je sois un serviteur qui accomplit fidèlement cette tâche, s'il te plaît. Et ceux qui sont ici assemblés avec moi ce matin, nous devrons aussi te rendre des comptes pour notre écoute ou notre refus de t'écouter. Et là encore, Seigneur, dans ta grâce, ouvre les oreilles et les cœurs, et que nous tous ici rassemblés, nous vivions à ta parole et de ta parole. Amen. Vivons dans la morgue, il y a des morts ambulants. Et on se poserait la question, fallait-il vraiment être sauvé? Est-ce que vous vous demandez pourquoi Paul écrit ces versets après tout ce qu'il a déjà dit au chapitre 1 qu'on a vu ensemble? Il a déjà parlé du salut. Il a déjà parlé de la grâce de Dieu, du pardon des péchés. Que voulait-il que les Éphésiens ou les chrétiens qui liraient cette lettre ressentent? Que voulait-il qu'ils pensent ou qu'ils fassent en entendant ce qu'il écrit maintenant? Paul fait comprendre à ses lecteurs, vous vous rappelez, ceux qui sont saints et fidèles en Jésus-Christ. Paul leur fait donc comprendre ce à quoi ils ont échappé. Pourquoi fallait-il qu'ils soient sauvés? Nous sommes, nous, dans cette même ligne-là, nous sommes aussi concernés. C'est l'affirmation de Paul en Romains 5, qui dit que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains. Parce que tous ont péché. Alors, fallait-il vraiment que nous soyons sauvés? Quelle question! Quelqu'un peut-être, ici ce matin, se demande, faut-il vraiment que je sois sauvé? Sauvé, mais de quoi? De la mort. Ce dont nous devions être sauvés est vraiment grave. C'était la mort. C'est glauque, c'est effrayant. Le problème n'est pas que nous, humains, devrions être meilleurs que nous ne le sommes. Le problème, c'est la mort du fait de nos fautes et de nos péchés. L'apôtre Paul décrit un état passé pour les chrétiens, et donc un état actuel pour tous ceux qui n'ont pas placé encore leur confiance en Christ. Récemment, avec Lucas et toute la famille, on a eu l'occasion d'aller dans les gorges du Verdon, un endroit magnifique, un grand lac, et puis dans l'enfilade de ce lac, il y a des gorges vertigineuses, plus de 600 mètres à certains endroits de dénivelé vertical, comme ça, des falaises qui ont été creusées apparemment par le torrent qui a creusé la montagne. Et on était là avec un monsieur qui était accompagnateur en montagne, dans un site magnifique, témoignage de la beauté, de la majesté, de la puissance de Dieu, de sa bonté aussi. Et ce monsieur était un paléontologue, donc il avait fait des études dans l'archéologie, etc. Il avait sorti une longue ficelle de plusieurs mètres, je ne sais plus exactement. Et il disait, voilà, nous, on est rien du tout, tout au bout de cette ficelle. Et il y a des millions d'années de sa conception, d'accord, qui nous précèdent. Et puis, il avait la prétention de dire, voilà, on peut calculer que le monde remonte à X millions d'années, donc 1 centimètre égale 1 million d'années. Et il avait une longueur de corde qui était censée représenter le début jusqu'à la fin de l'existence de cet univers. Et on écoutait, et puis à un moment, quelqu'un, n'est-ce pas, Lucas te rappelle, il a dit, ah oui, c'est quand même fou, hein, tous ces créationnistes qui pensent qu'à l'origine, même avant ça, il y a un Dieu qui a fait des choses. Et ils ont commencé à discuter à deux, qu'en effet, tout s'explique par la science. Ironie de la situation, il reconnaissait que nous sommes rien, même selon son propre système de pensée. Mais en même temps, il se permettait d'affirmer qu'au commencement, il n'y avait pas de Dieu, sans pouvoir être là. lui-même pour l'affirmer. Il était là bien vivant devant nous. Il a marché, il a escaladé les rochers, il a respiré l'air comme nous, il a soufflé, il a sué, il s'est baigné dans le Verdon comme nous. Je rappelle, on a été courageux. Et pourtant, cet homme était mort. J'ai envie de dire complètement mort, mais c'est redondant. Quand on est mort, on est mort. On l'est complètement ou on ne l'est pas. On ne peut pas parler à un mort. Vous avez remarqué, on peut pas. Il n'y a pas de réaction. Encéphalogramme plat, électrocardiogramme plat, plus de vie. Il y avait devant nous un mort ambulant. Il n'était pas le seul. Plusieurs des gens avec qui on a fait cette marche s'exclamaient: waouh, c'est grandiose, waouh, c'est magnifique. Mais pas Dieu pour voir que tout cela venait de Dieu. Mais croyons pas que c'est qu'un problème pour les païens, si on peut dire comme ça. Dans Matthieu, chapitre 23, versets 27 et 28, Jésus dit: mais quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Des gens religieux, des gens qui pratiquaient une religion, qui avaient une moralité religieuse, une éthique religieuse très forte, supérieure à peut-être beaucoup des gens de la même époque. Mais Jésus dit: hypocrites, vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux du dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux gens, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et de mal. On peut avoir un discours, une action même motivée par la religion, mais être mort spirituellement. C'est ça qui est triste. Beaucoup de gens qu'on a connus en Belgique, à Bruxelles par exemple, catholiques, fervents, engagés, qui auraient eu des choses peut-être à nous apprendre, qui étaient dans un sens des modèles au niveau familial, mais morts spirituellement. Il n'y avait pas de catégorie dans leur pensée pour comprendre ce que la Bible dit, pour comprendre la grâce dont on va parler tout à l'heure. Témoins de Jéhovah, puisque certains sont en contact peut-être avec eux. Mais c'est incroyable, ces forces, ils sont là, contre vent et marée, en train d'aller sonner aux portes. Mais mort, spirituellement mort. Même participer à la vie d'une église évangélique n'est pas la garantie d'être vivant. Vous comprenez ce que je veux dire? L'espoir se trouve ailleurs. Donc on regarde le monde, la boulangère chez qui tu achètes le pain, ton collègue de travail, ton directeur, peut-être, je ne connais pas. Pronostic selon les statistiques actuelles. Le livreur de surgelés, le facteur. Je trouve que les rues de Cavaillon sont bien animées au regard de la taille de la ville et par rapport à ce que j'ai connu. Le marché, le lundi matin, c'est un moment d'activité intense. Les gens sont là, travaillent, passent, font leurs courses, achètent. Mais combien s'arrête? Combien s'intéresse? La Bible, Jésus-Christ, le salut. Pourquoi faudrait-il être sauvé? La mort spirituelle, c'est vraiment une réalité. Pas de réaction, pas de compréhension. Des oreilles physiques pour recevoir le message, le tympan vibre, le message, les sons proviennent, mais pas d'oreilles spirituelles pour entendre, pas de cœur pour recevoir. Et la situation n'est pas seulement grave, mais aussi désespérée, impossible de s'en sortir par soi-même. Ce passage nous dit que nous sommes sous trois influences mauvaises, pris comme dans un piège, englués comme dans une toile d'araignée. Et mort spirituellement. Voilà ce que nous sommes sous ces trois influences. À la fois victime et auteur du mal dans le monde. Les deux ensemble. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est effrayant? La Bible dit ici, nous étions sous l'emprise du prince de l'autorité de l'air. Elle parle au passé parce qu'elle s'adresse à des chrétiens ici. Nous étions sous l'emprise du prince de l'autorité de l'air, c'est-à-dire clairement le diable, l'adversaire de Dieu, celui qui s'est rebellé dès les temps anciens et qui a cherché à entraîner tout le reste de la création dans sa révolte contre le Créateur, contre le Dieu infiniment bon et infiniment saint. La deuxième chose, nous sommes sous la domination du monde, c'est-à-dire que nous vivons dans un système, dans une société d'êtres humains, à quelque échelon que ce soit. Du petit bébé jusqu'au plus responsable dans ce monde, dans cette société, qui sont en train de se rebeller contre Dieu. Et nous sommes participants. Nous étions participants. Ça n'empêche pas, pour que vous ne compreniez pas mal, de garder une distinction à vue humaine. Je fais bien une différence entre Hitler et ce couple d'amis à Bruxelles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le cadavre est peut-être plus avancé dans la putréfaction, dans la décomposition, mais les deux sont des cadavres. Moins péché ne nous rend pas plus vivants. Et si nous ne sommes pas vivants, nous allons pécher. Il y a bien une gradation, c'est vrai, aux vues humaines, et qui compte aussi devant Dieu. Il y a un système de rétribution dans la justice de Dieu, mais en même temps la mort, c'est un état binaire, si vous comprenez. C'est soit 1, 0, soit ça y est, soit ça n'y est pas. Soit on est mort, soit on ne l'est pas. Ici, nous voyons dans notre texte que, en effet, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous faisons des péchés. Mais verset 3, parce que par nature, nous sommes pécheurs. Nous sommes soumis au désir de notre nature, entièrement corrompue par le péché. Notre chair, comme dit Paul, soumis à sa volonté mauvaise. Nous posons des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu, que la Bible appelle des péchés. Que la source profonde de cela fait un état. C'est par nature que nous sommes pécheurs. Sous la domination de notre propre nature pécheresse, donc c'est la troisième chose qui nous domine. Réfléchissez avec moi. Si vous placez une salade ou un gigot de zèbre devant un lion qui a faim, vers quoi le lion va-t-il se tourner, à votre avis?
Pour les 5 fruits et légumes par jour.
Il n'a pas la pub, il n'a pas la
Pas le
télé.
lion. Pas le lion.
Un lion.
Un lion.
Un lion. Il va se tourner vers le gigot de zèbre, n'est-ce pas? Sa nature carnassière le pousse à manger du zèbre. Maintenant, mettez une bonne côte de bœuf et une salade devant un lapin. Vers quoi le lapin va-t-il se diriger, Lucas? Vers la salade, parce que c'est dans la nature du lapin de vouloir manger les végétaux de la salade. Accrochez un petit ver bien dodu à un hameçon et lancez la ligne à l'eau. Que va faire le poisson? Sa nature le pousse à vouloir manger le ver, même si ce ver-là, c'est sa mort, parce qu'il est accroché au hameçon, au crochet qui va le faire capturer. De la même manière pour nous, dans notre nature pécheresse, la seule chose que nous voyons, c'est le ver dodu et pas l'hameçon. Et nous croquons le ver, nous l'avons fait, et nous sommes morts. Trois ennemis, le monde, son chef, le diable si vous voulez, et notre propre chair, notre nature pécheresse corrompue. Et au final, cela se résume à une seule réalité d'opposition à Dieu, de rébellion, de désobéissance, de faute, qui s'exprime donc par des fautes et des péchés en tant qu'acte, par la mort. Il ne s'agit pas d'avoir une casuistique ici. Ah, alors si je fais ça, alors attends, je crois que dans ce cas-là, il s'agit de l'influence du diable. Attends, si je fais ceci, oui, non, là tu vois, j'ai grandi dans un système de société qui fait que, ah, bon, là je veux bien mettre, c'est un peu moi quand même. Mais bon. Non, il ne s'agit pas de casuistique, il s'agit de déterminer. Il y a deux camps. Et aussi, si on dit ça, il faut faire attention. Il ne s'agit pas de dualisme. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là. Il ne s'agit pas de deux forces égales puissance. Et nous serions comme pris entre les deux feux. Une fois l'un gagne, ben voilà, et une fois l'autre gagne. Non. Verset 20 et 21 du chapitre 1. Dieu a mis en œuvre sa puissance dans le Christ, en le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer, non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir. Satan lui-même est mort. Et bien que prince ayant un certain pouvoir sur d'autres autorités, il n'a pas toute autorité, comme le Christ là. Et vous voyez, Paul dit vous et nous, pas de différence. En fait, tous les êtres humains sont dans ce cas-là. Nous étions par nature voués à la colère, comme les autres. Verset 3. Et la conséquence, justement, C'est des enfants de colère, des enfants qui vont devoir affronter la colère d'un père qui est de manière juste fâché contre eux. Le jugement divin va venir. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Car oui, il y a une bonne nouvelle. Dans un autre livre, dans une autre histoire, j'ai lu ça quelque part, cela aurait été la fin. Verset 4. Mais Dieu, dans un autre livre, dans une autre histoire que l'histoire vraie et réelle de ce monde, dans un autre plan que le plan de sauvetage conçu par Dieu avant même la fondation du monde qu'on a déjà exploré les dimanches précédents, cela aurait été la fin. Mais Dieu, verset 4, Dieu intervient, Dieu prend les choses en main, Dieu agit, il ne se laisse pas déborder, il ne se laisse pas submerger. De quel Dieu est-ce que nous parlons? Le Dieu qui est riche de compassion. Le Dieu qui s'est présenté à Moïse en disant « Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Un Dieu qui est entièrement libre en lui-même de manifester sa compassion et sa grâce, qui n'est contraint par personne. Et il dit ça à Moïse juste après que le peuple se soit tourné vers une idole qu'il a fabriquée, le veau d'or. La compassion de Dieu, le grand amour de Dieu, c'est pas un petit amour, parce que Dieu est infiniment grand. Il est cet amour à l'échelle de ce Dieu infini. Vous voyez comme Paul, de nouveau, il veut nous faire comprendre les choses. Verset 4. Le grand amour dont il nous a aimés. Et Dieu nous a aimés. C'est pas que Dieu nous aime, Dieu nous aimera, mais Dieu nous a aimés. C'est un fait déjà établi. Dieu nous a aimés d'un amour incroyable. Le grand amour... Ah, pardon. Et versets 4 et 5. Alors, nous qui étions morts, voilà. Parce que c'était au moment où nous étions au fond du trou, au fond du gouffre, que Dieu a manifesté son amour. Et Dieu nous aime d'un amour incroyable si nous lui appartenons. Ce matin, nous pouvons être tout à fait sûrs de cette vérité. Voici comment Dieu met en évidence, prouve son amour envers nous. C'est que alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Au-delà des circonstances difficiles peut-être de nos vies, cette vérité, si nous la saisissons, est une encre sûre et solide pour notre âme. Elle fonde notre identité en tant que chrétien. Et donc, je me tourne vers vous. Connaissez-vous ce Dieu qui a manifesté son amour par son Fils? Et cet amour est d'autant plus incroyable qu'il a été manifesté envers nous qui n'étions pas aimables. On était des cadavres vivants comme les autres. Alors, Paul ne peut pas s'empêcher de magnifier la grâce de Dieu. Et tout de suite, il dit, ah, c'est par la grâce qu'on a été sauvés. Et puis, il pense, attends, j'ai pas fini mon idée, je vais revenir plus tard à la grâce. Il continue donc un peu, et il montre de quelle manière l'amour de Dieu se manifeste. En deux temps. D'abord, il nous réveille, il nous ressuscite, si vous voulez, et puis il nous fait asseoir dans les lieux célestes. Tiens, ça vous fait penser à quelqu'un? Est-ce qu'on n'a pas déjà vu quelqu'un réveillé, assis dans les lieux célestes?
Oui. Brian et Jenny.
Non, pas Brian et Jenny. On va plutôt regarder le chapitre 1, verset 20. C'est dans le Christ que Dieu a déjà mis en œuvre cette souveraine puissance. Ce miracle a déjà été accompli, si vous voulez, en Christ. Et nous, si nous sommes vivants et assis dans les lieux célestes, c'est en Jésus-Christ, c'est en lui, le même refrain qui était dans le chapitre 1. Et le but de tout cela, c'est d'indiquer, c'est un indice, c'est pointer vers, c'est montrer, c'est prouver, c'est mettre une évidence sur la table. C'est montrer l'amour de Dieu. Pour quand? Surtout dans les temps à venir. Parce que ce que nous connaissons du salut n'est pas encore pleinement réalisé pour nous, mais il y a une espérance pour l'avenir où nous aurons la totalité, l'entièreté, sans plus aucun voile, de l'amour de Dieu déversé pour nous. Et Dieu manifeste quoi? Dieu prouve quoi? La surabondante richesse de sa grâce, sa bonté sur nous en Jésus-Christ. Impensable, n'est-ce pas? Inimaginable. C'est presque inouï, mais nous l'avons entendu si nous sommes chrétiens. Étonnant, surprenant.